Voilà, je vais prier pour commencer aussi ce temps de prédication et aussi pour les enfants. Seigneur, on te remercie pour cette occasion que nous avons maintenant aussi de regarder à travers ta parole ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Seigneur, nous savons que tu as un message pour nous. Nous voulons, Seigneur, que nos cœurs, nos yeux puissent être vraiment ouverts, réceptifs, Seigneur, que notre esprit puisse vraiment être réceptif à recevoir ce message afin que, Seigneur, il puisse continuer de nous amener dans cette vérité, que, Seigneur, nous puissions, comme on l'a vu ce matin au début, vivre dans cette lumière, continuer de marcher dans cette lumière. Seigneur, que ce soit tes paroles qui traversent ma bouche, Seigneur, et que ton nom seul soit glorifié. Nous voulons te remettre aussi les enfants, afin que ta grâce soit sur eux, et que nous puissions voir aussi ton nom aussi sur eux, ainsi que sur les monitrices. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Amen.
Amen. Amen.
Voilà, donc aujourd'hui, on continue, on est dans la dernière prédication par rapport aux clés de la victoire. On va voir la sixième et la septième clé. On va voir principalement la sixième clé qui est une clé peut-être qu'on connaît un petit peu moins, peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup dans notre église, mais on peut regarder qu'est-ce que ça veut dire. Et justement, après cette prédication, on va prendre la Sainte-Seine et ensuite on va essayer de mettre en pratique ces clés. On veut vraiment pouvoir aussi prier, de pouvoir aussi demander aussi la victoire sur nous. Qu'on soit ici en présentiel, qu'on soit sur Zoom, je crois que Dieu veut que nous puissions mettre en pratique sa parole, que nous puissions mettre en pratique les outils qu'il nous donne pour pouvoir avancer. Peut-être pour certains, ça fait peur un peu, parce que c'est peut-être des nouveaux outils, c'est peut-être des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais laissons-nous surprendre par le Seigneur. Le Seigneur veut encore aujourd'hui dire quelque chose encore de grand. Ce matin, on va lire plusieurs textes bibliques parce qu'on veut s'appuyer justement sur la parole de Dieu. Alors, n'hésitez pas à prendre un bout de papier pour écrire les différents passages afin que nous puissions continuer de méditer aussi avec eux, aussi avec ces passages tout à l'heure dans chez vous calmement. Donc, le deuxième dia, donc, nous sommes à la sixième clé et ce sont les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit. Lorsqu'on parle des dons de l'Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? De quels dons s'agit-il? Le nouveau dictionnaire biblique dit qu'un charisma, donc qui est le mot grec pour don, est un don fait par charis, c'est-à-dire le mot grâce. Il y a toujours ce nom charis, le don grâce qui est là. C'est-à-dire que justement, c'est pas grâce que le Seigneur nous donne des dons pour les utiliser. Et on les a reçus gratuitement et il nous demande que nous les donnons aussi gratuitement au Seigneur et vers les autres. Donc c'est quelque chose, comme on l'a dit, qui nous vient de la part de notre Seigneur. C'est une grâce, ce n'est pas par quelque chose qu'on a mérité, ce n'est pas parce qu'on est un meilleur chrétien qu'on a le droit à tel don, etc. Mais chacun de nous, on reçoit des dons que Dieu nous donne dans la diversité pour nous permettre justement de nous édifier, de nous fortifier ensemble. Donc il y a certains dons qui sont pour tout le monde. Regardez, les premiers dons, ce sont la grâce du pardon des péchés et de la vie éternelle. Lorsqu'on a accepté Jésus-Christ dans notre cœur, on a reçu ce don, cette grâce que nous sommes pardonnés. Dieu ajoute d'autres dons, la grâce d'être préservé journellement des dangers et de la mort. On peut lire ça dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 11. Jour après jour, le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous apporter la sécurité, pour nous protéger. Il y a des dons divers qu'il nous accorde au moment de notre appel ou qui sont permanents. On peut voir ça dans Romains, chapitre 11, verset 29. Il y a des dons particuliers qui sont octroyés à chacun pour vivre conformément à notre vocation. On peut lire ça dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 7. Donc, différents dons qui nous sont donnés comme dès que nous recevons le Seigneur, ces dons nous sont donnés volontairement, gratuitement, par grâce, par le Seigneur. Ces dons spécifiques qu'il donne à chaque chrétien pour le service de Dieu. Puis ensuite, justement, à travers ces dons, Dieu nous donne d'autres dons spécifiques, justement, pour nous aider à avancer, pour que nous puissions aussi édifier l'Église. Regardez dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, qui dit « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un don, un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » Il est dit dans ce texte, justement, que chacun de nous a reçu un don particulier. Il n'est pas dit c'est juste aux spécialistes, c'est pas juste aux évangélistes, aux pasteurs, aux prédicateurs, aux leaders. À chacun de nous, un don particulier nous est donné. Et ils seront différents de notre voisin, ils seront différents de notre frère et soeur. Parce que le Seigneur veut que, à travers le corps du Christ, ces différents dons puissent être utilisés pour l'avancement du royaume de Dieu. Et ces dons ne sont pas simplement juste pour nous, ce n'est pas juste pour nous édifier nous-mêmes, mais c'est aussi pour édifier justement des autres. Il est dit que le chrétien va mettre ce don au service des autres. Avant tout, les dons spirituels ou les dons de l'esprit que nous recevons sont avant tout pour édifier l'Église et notre prochain. Et on peut le voir dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12, qui dit « Vous donc, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l'Esprit, recherchez avant tout à posséder en abondance celles qui contribuent à faire grandir l'Église dans la foi. » Celles qui contribuent à faire grandir l'Église dans la foi. Ce texte nous montre justement l'importance que ce don reçu par grâce ou gratuitement sert à édifier l'Église, c'est-à-dire les frères et sœurs dans l'Église, pour les faire progresser dans leur marche spirituelle et personnelle. Oui, donc il y a des dons qui servent à édifier d'autres personnes que celles de l'Église, comme par exemple le don de l'amour, de la compassion, c'est-à-dire d'avoir un amour, une compassion pour des personnes par exemple, qui souffrent, le diaconat, le service justement pour les autres. Mais la plupart des dons reçus par l'Esprit de Dieu sont pour l'Église. L'auteur du livre, le combat spirituel, le pasteur Emmanuel, dit « Dans le royaume de Dieu, tout est grâce. Le salut est une grâce. La délivrance est une grâce aussi. Rien ne nous est accordé à cause de nos mérites propres, de nos capacités, de notre gentillesse, de notre fidélité. C'est tout par grâce. » Alors, prochain diable, quels sont les dons reçus par le Saint-Esprit? Et on va voir justement juste une liste qui est très brève, mais qui nous permet de montrer que les dons sont variés. Ouvrons notre Bible dans Romains chapitre 12, versets 4 à 8. Romains chapitre 12, versets 4 à 8. Il est dit, chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps pour notre union avec le Christ. Et nous sommes tous et chacun pour sa part, membres des uns des autres. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Donc dans ce passage, on voit une liste de dons accordés aux chrétiens. Il est parlé de la prophétie. Le don de la prophétie n'est pas juste relié à l'Ancien Testament. Aujourd'hui encore, Dieu permet que ce don se fasse. Il y a des personnes qui reçoivent des fois des paroles qui sont de Dieu pour l'Église, pour fortifier l'Église, pour amener une direction à l'Église, pour avertir l'Église par rapport à une situation. Il y a le service pour le diaconat, donc pouvoir le service par rapport aux autres, à celui qui souffre, à celui qui passe par des moments difficiles, celui qui est malheureux, celui qui a faim. L'enseignement ou l'exhortation, que ce soit, ça peut être le prédicateur, ça peut être l'enseignant, le docteur, aussi on le voit dans certains aussi passages. Le don de donner financièrement ou la générosité, il y a des personnes qui ont reçu ce don, ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas reçu ce don n'ont pas donné, mais il y a des personnes que Dieu donne, qui vont donner beaucoup plus parce qu'ils ont cette libéralité de le faire. La direction, c'est-à-dire aussi la gestion, c'est-à-dire un directeur, soit directeur de culte, c'est-à-dire de gérer une compagnie ou de pouvoir gérer aussi ou de pouvoir aussi superviser, diriger aussi l'Église. L'encouragement ou la miséricorde sont aussi donc des dons qui nous ont donnés dans ce texte. Le prochain diable, on voit qu'il est parlé aussi dans d'autres textes, d'autres dons. On peut le regarder, vous ouvrez votre Bible, on ne va pas lire, mais 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 et 11, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11, il est parlé d'autres dons. Il est parlé aussi des dons d'une parole de sagesse, une parole de connaissance. Il y a des personnes qui reçoivent un message de la part de Dieu qui vont là pour pouvoir amener la connaissance à l'Église ou amener peut-être une parole de sagesse à quelqu'un qui passe par un moment difficile. Il y a aussi le don de la foi. Nous avons tous la foi quand nous recevons le Seigneur. Il y a des personnes qui ont reçu le don spécifique de la foi dans le sens qu'ils sont capables de faire des choses incroyables que d'autres peut-être ne pourront jamais le faire. Parce qu'ils ont ce don de la foi, de pouvoir mettre vraiment cette foi en pratique. Il y a les dons de guérison. Les dons de guérison, Dieu est capable à travers une personne, pas juste peut-être des pasteurs ou des évangélistes, des leaders, mais que Dieu peut guérir à travers une personne, d'opérer des miracles de toutes sortes. Il y a aussi le discernement des esprits, de pouvoir discerner justement quel esprit est derrière telle personne ou telle situation, ou quel justement pouvoir discerner quand l'ennemi attaque pour pouvoir aussi avertir l'Église. Différentes sortes de langues, différentes sortes de langues. On a pu voir aussi que quand il y a eu donc la Pentecôte, les disciples ont commencé à parler dans différentes langues qui étaient présentes ici à travers les différents juifs qui étaient rassemblés à Jérusalem. Ils ne les connaissaient pas. Dieu donne des fois aussi différentes sortes de langues comme un don pour pouvoir aussi encourager une personne spécifique. L'interprétation des langues. Hein, quand on se soit ici, par exemple, si quelqu'un parle en langue, il est dit dans la parole qu'il faut que quelqu'un puisse interpréter, sinon il faut se taire, sinon ça ne sert à rien parce qu'on ne va pas comprendre ce qui se passe. Donc on voit qu'il y a différents dons. Ces dons sont là, disponibles pour nous. Ces dons vont venir peut-être une fois, peut-être deux fois, ou peut-être d'une façon plus régulière sur chaque personne. Donc on voit que ces dons forment deux grandes catégories. Il y a ceux qui équipent les croyants pour le ministère de la parole, et ceux qui équipent pour le service pratique. En rapport avec la parole, ben on parle justement, comme vous savez, il y a aussi les cinq ministères, aussi donc les apôtres, les prophètes, les enseignants, les évangélistes, les dons des langues, le discernement, sont tous des dons pour encourager à travers la parole, pour édifier les personnes. Et aussi justement, la deuxième catégorie de dons, c'est le service pratique, le service pour les autres, pour encourager aussi les autres dans leur cheminement. Il y a l'amour, la compassion, le diaconat, la guérison. Donc, certains de ces dons s'exercent dans un ministère régulier et d'autres se manifestent de façon occasionnelle. Les dons d'enseignants, d'évangélistes peuvent venir sur la personne. La personne va continuer de se former pour pouvoir continuer de développer ce don. Certains font appel à des capacités naturelles et d'autres sont clairement de nature spéciale. On peut voir dans certaines personnes qu'ils ont justement, par exemple, ce don de diaconat, ce don de service. Ils ont ce cœur généreux pour les personnes autour d'eux. Ils ont ce don d'amour, de compassion. Mais pour d'autres, justement, il faudra les développer. Il faudra peut-être qu'on puisse les pratiquer pour que vraiment on puisse être à l'aise aussi de pouvoir les utiliser avec l'aide du Seigneur. Donc, tous ces dons de l'Esprit sont encore valables aujourd'hui. Autant les cinq dons du ministère, ceux de la parole, que ceux du service pratique. Ils sont plus jamais actuels et nécessaires. Ils sont disponibles pour tout chrétien. On peut les prendre à tout moment ou les recevoir selon les besoins. C'est vrai que certains chrétiens ou certains leaders vont dire que certains dons justement comme les cinq ministères, etc., sont pour le début de l'Église ou les dons de guérison, de prophétie, les dons de guérison, ils sont juste pour le début de l'Église, puis maintenant, ils n'ont plus besoin. Moi, je crois personnellement que ces dons sont encore là, disponibles, parce que Dieu veut continuer à travailler. Dieu veut, à travers ces dons, que nous puissions les utiliser pour justement gagner des combats, pour pouvoir justement continuer de propager la bonne nouvelle. Ces différents dons, justement, sont là pour le bien commun, pour l'édification du corps du Christ. Ils ne sont pas, comme on l'a dit, juste pour nous, pour nous attirer peut-être du prestige, pour nous attirer peut-être de la visibilité devant les autres. On doit l'utiliser autant pour la vie pratique, mais aussi pour le combat spirituel. Autant pour notre propre combat que celui du combat de notre frère et sœur autour de nous. Emmanuel Manon, justement, le pasteur qui a écrit le combat spirituel, dit « Les dons de l'esprit rendent le combat plus efficace et plus précis. Au travers de l'exercice des dons, le Seigneur nous parle, nous dirige, nous permet et permet à l'Église de remporter des victoires sur l'ennemi. » Donc ces dons de l'Esprit sont donnés justement pour le combat spirituel aussi. À travers ces dons, justement, le Seigneur va nous utiliser, va diriger pour qu'il nous donne peut-être de façon occasionnelle ces dons pour pouvoir se défendre, mais aussi pouvoir gagner des batailles aussi pour les autres. Voilà pourquoi on a besoin de les prendre avec foi, avec discernement. Qu'on soit jeune, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, qu'on soit une personne âgée, Dieu veut utiliser chacun de nous avec ces dons qu'il nous donne. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'être humain, même en tant que chrétien, on a vu très partiel de ce qui se passe autour de nous. Tout ce qui se passe d'un côté surnaturel, invisible à nos yeux. Mais on sait que dans le niveau spirituel, l'ennemi, Satan, continue de s'acharner sur les chrétiens, continue de vouloir renverser l'Église. Et voilà pourquoi que justement Dieu nous donne à travers son esprit de pouvoir contrer ces attaques. Il nous donne le discernement, il nous donne ses dons pour pouvoir nous permettre d'avancer. L'Esprit de Dieu connaît tout, il sent de tout, il voit tout, y compris toutes les profondeurs de Dieu. Et voilà pourquoi qu'il est là avec nous à jour après jour et qu'il nous donne des ressources pour pouvoir nous aider à combattre et à gagner des victoires. Voilà pourquoi nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi que même peut-être le discernement peut nous être donné à un moment donné pour que justement nous puissions voir si c'est vraiment des attaques de l'ennemi ou si c'est notre propre argument, nos propres réflexions. Par les différents dons, justement, l'Esprit de Dieu nous équipe, nous parle, nous dirige, nous conduit, nous pousse à faire de telles choses. Donc, on se rappelle que ces dons de l'Esprit ne sont pas donnés pour nous prévaloir pour nous-mêmes, pour nous enorgueillir, pour nous dire « Ah, ben, je suis un meilleur chrétien », pour nous vanter. Ils sont donnés avant tout pour l'édification de l'Église et en vue du combat que nous devons livrer devant Dieu pour gagner des batailles devant l'ennemi. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont reçu les dons de guérison ou de prophétie d'une façon peut-être plus générale. Et on peut le voir à travers les cercles, comment que les personnes ont pu faire des grandes choses à travers les dons que Dieu leur a donnés. Mais cela ne doit pas se faire pour un business, pour s'enrichir. Malheureusement, aujourd'hui, tellement de pasteurs, tellement de leaders utilisent les dons qu'ils ont reçus de Dieu pour pouvoir faire du business. Et lorsque c'est du business, ce n'est plus des dons de Dieu. Ça, c'est l'ennemi qui travaille à travers eux. Parce que Dieu ne veut pas que tu fasses de l'argent avec quelque chose qu'il t'a donné gratuitement. Il t'a donné la vie à travers le sang de Jésus-Christ. Il ne te demande pas maintenant de t'enrichir avec ce nom de Jésus-Christ par les dons qu'il te donne pour pouvoir tromper les autres et de pouvoir t'orgueillir d'avoir un don, d'avoir de l'argent. Aspirer à ces manifestations. Comment rechercher ces dons de l'Esprit? Puisque c'est la volonté de Dieu qui veut nous donner, nous devons lui demander de la prière, de nous équiper avec ses dons. Donc, croyez que les dons de l'Esprit sont là pour aujourd'hui et pour vous personnellement. Il faut laisser tomber nos craintes, nos appréhensions, nos croyances paralysantes qui peut-être nous disent « Ah non, ça, ce don n'est pas pour moi, c'est juste pour les autres personnes. Ah non, moi, les dons de l'Esprit, c'est quelque chose que je ne connais pas, donc je les mets de côté. » Jésus va même dire que nous allons faire de plus grandes choses que lui. Est-ce que ça veut dire qu'on est plus grand que Jésus? Non. Mais c'est Jésus lui-même qui le dit. Regardez dans Jean, chapitre 14, verset 12. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Le Seigneur veut nous dire ce matin que oui, c'est vrai que Jésus-Christ est resté une trentaine d'années sur terre. Mais il a dit, maintenant, je pars pour vous donner l'Esprit Saint, pour que vous puissiez continuer d'œuvrer, pour que vous puissiez continuer d'avancer, d'aller de l'avant. Le Saint-Esprit veut accomplir avec chacun de nous des œuvres merveilleuses. Et regardez par exemple autour de vous, par exemple avec Internet. Je pense que vous connaissez l'application YouVersion qui donne accès à la Bible sur notre cellulaire. Plus de 500 millions de téléchargements depuis, je crois que ça coûte depuis 10 ans. 2400 versions de la Bible dans 1600 langues. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens qui traduisent la Bible d'une façon écrite, d'avoir du papier. Mais aujourd'hui, tout le monde a un cellulaire. Tout le monde peut avoir accès à la Bible, même au plus profond, peut-être, de la forêt ou d'autres places. Regardez, par exemple, avec Billy Graham, les campagnes qu'il faisait, il attirait des fois 50 000 personnes ou plus. Il y avait des milliers de personnes qui se convertissaient. Dieu utilise des outils, Dieu utilise des personnes pour continuer de répandre l'amour de Dieu, pour continuer de pouvoir dire qu'il est grand et pour glorifier son nom. Il y a tellement d'exemples tout autour de nous où la puissance du Saint-Esprit continue pour édifier l'Église, pour délivrer, pour libérer les captifs, les personnes qui sont prises dans les pièges de l'ennemi. C'est vrai que dans certains milieux chrétiens, On met plus en avant ses dons. On met plus d'importance. Et on veut vraiment de les mettre en pratique. Et c'est vrai que peut-être dans notre milieu méthodiste, peut-être, on en parle, mais ce n'est pas quelque chose forcément que nous mettons vraiment en pratique. Mais j'aimerais que justement dans ces prochains temps, lorsque nous parlons de ce combat spirituel, Dieu nous donne des outils, nous puissions l'utiliser. Il ne s'agit pas de les utiliser à outrance ou pour, comme on a dit, pour simplement pour nous vanter. Mais ils sont là à notre disposition, pas grave, gratuitement. Et Dieu veut que nous puissions les utiliser pour pratiquer, pour édifier, pour encourager l'Église et chacun de nous. Donc la prochaine clé, la septième clé, c'est la prière. Le pasteur Maurice Ray, qui est un très grand pasteur qui vient de l'Europe, disait que la prière, il disait que l'Église au cours des siècles a pâti de cette négligence et notre génération est encore victime. Il disait que justement que l'Église n'a pas réussi à comprendre l'importance de la prière et comment que justement cette génération où nous sommes la sub-génération en partie dans le sens que l'Église des fois est lente, l'Église est en difficulté, la progression de l'Église est difficile. Cette parole était vraiment prophétique. Emmanuel Lamain, justement dans son livre sur le combat spirituel, dit que sur 10 versets consacrés au combat spirituel, 3 concernent la prière. Et dans ces 3 versets, vous allez retrouver 5 fois des termes qui sont en rapport avec la clé de la prière. Donc on voit comment que la prière est importante. Les victoires dans le combat sont en effet justement les grâces de Dieu. Et Dieu nous donne l'occasion à travers la prière, à travers le jeûne, pour pouvoir remporter des victoires. Dans le temps de la pandémie, on a vu comment cette clé de la prière a été redécouverte et comment elle a été utilisée dans les milieux chrétiens. J'entends à travers les églises, à travers les différentes familles d'églises, comment que la prière revient au bout du jour. Il y a des églises qui font la prière 24/7, c'est-à-dire d'avoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des personnes qui intercèdent pour l'église, pour les besoins des personnes. Il y a aussi les maisons de prière qu'on voit à travers aussi à travers le monde. Il y en a une même à Ottawa, il y en a une dans différents lieux pour pouvoir où les gens vont venir dans ces lieux pour prier, pour rechercher la face de Dieu. Nous avons nous-mêmes aussi en tant qu'Église vu aussi justement durant le temps de la pandémie de remettre aussi l'importance de la prière. Voilà pourquoi on continue de prier encore 3 fois par semaine pour prier, intercéder pour les besoins de l'Église. Alors, 5 choses à faire pour optimiser justement nos prières, selon justement le pasteur Emmanuel. Le premier, c'est prier en marchant. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais moi je le fais régulièrement. C'est vrai que de prier seul dans notre chambre, sur notre lit ou dans notre canapé, des fois on a tendance après à sommeiller, on s'endort ou on commence à réfléchir à d'autres choses. On est dérangé par le téléphone, par notre cellulaire, etc. Quand on reste assis, des fois, on a du mal à se concentrer. Mais lorsqu'on marche, on est ouvert. Et souvent, moi, je marche dans le quartier ou souvent, je marche je suis maintenant à contre-cœur. J'aime voir au bord de l'eau ou même dans la ville pour voir les maisons, pour prier pour les personnes que je rencontre. Je prends aussi mon cellulaire, je mets de la musique chrétienne pour me préparer et ensuite, je prie. Regardez, vous allez voir comment que prier en marchant va vous aider à vous concentrer et à voir que vous avez des prières qui sont efficaces, des prières qui sont puissantes. Si la marche n'est pas votre truc, vous pouvez faire d'autres façons, d'aller simplement dans la nature ou trouver un endroit en dehors de chez vous pour simplement prendre un temps de prière. Le deuxième point, soyez combatifs. La prière dans le combat spirituel n'est pas une prière de remerciement, ni de louange, ni d'adoration. C'est une prière combative dans laquelle vous adressez avec Dieu, avec énergie, avec confiance, avec soumission. Donc, c'est une prière qui doit montrer de votre tripe, de votre cœur. On ne peut pas prier pour une prière pour le combat. Seigneur, je te remercie pour ton aide, aide-moi à combattre comme ça. C'est vrai que chacun de nous, on a un caractère différent. Mais on doit aller avec le combat, on doit aller avec force, on doit aller avec énergie, confiance. Dire, Seigneur, je crois en ton nom, que je suis vainqueur à travers le combat. Je veux me lever devant les attaques de l'ennemi. Je veux repousser cette attaque par ton nom puissant. Ce n'est pas une prière timide, une prière qui est efficace. Dieu nous a donné non pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Dieu nous a donné cette autorité comme nous l'avons vu, et nous avons besoin d'admettre aussi dans nos prières. Pour ceux qui viennent régulièrement dans les points de prière le mercredi soir, lorsqu'on prie avec différentes églises méthodistes, vous allez voir que selon les cultures, il y a des personnes qui sont vraiment très énergie dans leur prière. Ils sont vraiment feu et flamme. Donc, ce n'est pas dire qu'on doit élever notre voix, ce n'est pas dire parce qu'on est plus énergique que nos prières sont plus efficaces. Mais on doit aussi aller selon aussi le combat que nous menons pour pouvoir aussi gagner des victoires. Le troisième point, c'est persévérer. Persévérer. Dans notre nature en tant que croyant, et surtout peut-être dans notre nature en tant que croyant, dans les pays nord-américains ou occidentaux, on prie peut-être une fois, deux fois, trois fois, puis après on s'arrête. Parce que bon, on pense à autre chose, on croit que ça veut pas fonctionner. On pense peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais il faut persévérer. Persévérer même pendant des mois, des semaines, des années s'il faut. Avec force, avec courage, avec foi, pour avoir des résultats. Souvent, l'ennemi, justement, nous donne la timidité. Souvent, le Seigneur nous enlève, justement, cette persévérance, nous met les doutes parce qu'il nous dit, ben oui, tu peux prier deux, trois fois, après tu oublies, puis on passe à autre chose. On a besoin de prier, d'intercéder. Voilà pourquoi on continue de le faire semaine après semaine pour certains sujets que nous mettons aussi devant l'Église pour pouvoir avancer, pour pouvoir voir que Dieu puisse agir. Quatrième point, priez jusqu'à ce que vous sentiez libre ou en paix. Tant que vous n'avez pas la paix, tant que vous ne sentez pas libre, continuez à prier. Ça veut dire que le Seigneur vous encourage à continuer. Lorsque vous sentez que vous êtes libre ou en paix, ça veut dire que, OK, Dieu a entendu la prière et maintenant il va l'accomplir autant voulu. Des fois, Dieu peut nous dire, comme avec Paul, quand il priait pour son écharpe dans son corps, il a dit, le Seigneur lui a dit maintenant que arrête de prier, ma grâce te suffit. Le Seigneur, des fois, nous dit maintenant, oui, j'ai entendu ta prière, tu peux passer à une autre prière. Ou on sent que Dieu va agir ou que Dieu va faire quelque chose. Alors continuons, restons dans la confiance, restons dans la paix et Dieu va continuer d'avancer. Le cinquième point, restez confiant. Restez confiant que nos prières sont entendues par le Seigneur. Restez confiant que même si peut-être on doute que nos prières soient entendues, même si on doute que Dieu va agir, restons dans la confiance. Dieu veut voir notre confiance. Si nous prions et quelques temps plus tard, nous doutons, si nous prions le Seigneur et puis ensuite on va parler avec un frère et soeur et dire, oh, je ne suis pas sûr que le Seigneur va faire ça, est-ce que tu veux prier pour moi? Le doute revient. On n'a pas confiance en le Seigneur. On doit dire, Seigneur, oui, j'ai confiance dans la foi d'avancer que ma prière a été entendue. Et maintenant, je marche dans la foi. C'est vrai que l'ennemi va continuer à me mettre le doute. Est-ce que Dieu vraiment t'a entendu? Est-ce que vraiment Dieu vraiment va agir dans ta prière? Là, on doit chasser ces pensées négatives et dire, oui, j'ai confiance dans la foi que Jésus a entendu mes prières. Donc, ces cinq points sont là pour nous rappeler de l'importance de la prière. Que oui, la prière est efficace pour un combat et qu'il faut le croire par la foi, qu'il faut persévérer, rester confiant que Dieu agit. Et tout à l'heure, nous allons, comme on a dit, mettre en action ces clés de prière dans le cadre de la Sainte-Cène. Parce que nous croyons que nous avons besoin de prier, d'intercéder pour des besoins spécifiques. Nous croyons que la Sainte-Cène n'est pas juste un rappel, comme quoi, de ce que Jésus a fait, mais à travers le sang de Jésus-Christ, à travers la puissance de Jésus-Christ, nous pouvons encore faire des miracles, nous pouvons encore combattre l'ennemi, nous pouvons remporter encore des victoires. Alors, pour terminer, regardons brièvement justement ces sept clés de victoire qu'on a vues dans ces dernières semaines. La première, la clé de voûte et prébitaire, c'est Jésus-Christ. Il faut se placer sous Jésus-Christ. Si vous voulez faire sans Jésus-Christ, si vous voulez utiliser les autres clés sans Jésus-Christ, vous allez tomber. L'ennemi va rigoler de vous parce qu'il sait qu'il va vous vaincre. Mais quand on reste sous la voûte de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Parce que Christ a vaincu les puissances des ténèbres sur la croix. Et cette clé, justement, nous permet d'ouvrir d'autres portes. Les autres clés vont un peu de pair, dans le sens de l'autorité du croyant, c'est-à-dire que Dieu nous a donné une autorité. Dieu ne nous a pas simplement dit, OK, vous avez remporté la victoire. Il nous donne une autorité en tant que croyant. Va de pair avec la parole de Dieu. On a vu comment que aussi la clé importante de la parole de Dieu. Nous voyons dans la parole de Dieu tellement de promesses, tellement de textes qui nous montre que nous allons à la victoire, que nous pouvons grandir devant l'ennemi qui essaie de nous acharner sur nous. L'autre aussi fonctionne, qui est d'autres clés qui fonctionnent par paire, c'est le nom de Jésus. Nous avons vu qu'au nom, le nom puissant de Jésus-Christ. Rappelez-vous comment Pierre, justement, Pierre, quand il va justement au temple et qu'il voit justement un paralytique lui demander le monde, il dit : j'ai pas d'argent, mais au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ordonne, lève-toi et marche. Nous avons le nom puissant de Jésus-Christ en nous. Nous avons ce nom. Et lorsque l'ennemi attaque, nous pouvons brandir le nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas le brandir comme juste une baguette magique, mais il faut y croire. Il faut se mettre sous le regard de Jésus-Christ. Il faut marcher selon Jésus-Christ pour que cette clé fonctionne. Donc, cette clé du nom de Jésus est intrinsèquement liée au sang de Jésus-Christ. On a vu comment que le sang de Jésus-Christ nous lave de tout péché. Mais le sang de Jésus-Christ nous donne la victoire aussi. Et nous pouvons aussi, par le sang de Jésus-Christ, demander la victoire de notre, à part notre Seigneur Jésus-Christ. Le don de l'Esprit, donc, comme nous avons vu aujourd'hui, va aussi en pair, en lien direct avec la prière, puisque c'est à travers la prière que nous allons voir que ces dons vont nous être distribués pour chacun de nous. Donc, toutes ces sept clés, il y en a peut-être bien d'autres encore, il nous est encouragé à les utiliser. C'est un peu comme le pactage d'un soldat. Lorsqu'un soldat part au combat, il reçoit un équipement qui est complet. Le soldat doit apprendre à utiliser cet équipement, ces armes qu'il a. Doit apprendre à se servir, doit s'entraîner régulièrement pour pouvoir utiliser toutes ces armes, tout ce pactage qu'il reçoit pour pouvoir combattre et gagner des victoires. La même chose pour nous aussi. Nous devons aussi pouvoir utiliser ces dons régulièrement pour pouvoir aussi savoir comment discerner, comment pouvoir l'utiliser devant l'ennemi, pour pouvoir libérer le captif, pouvoir délivrer des personnes, pouvoir chasser aussi des démons. Nous avons cette tâche aussi en tant que chrétien, nous avons cette puissance qui nous est donnée à travers Jésus-Christ. Voilà dire, ce n'est pas la puissance qui se trouve en nous par nos propres moyens, mais c'est la puissance de Christ qui agit à travers nous. Alors, il faut simplement peut-être ouvrir nos cœurs, notre esprit, dire « Seigneur, quel don tu m'as donné ? Je veux utiliser ces dons que tu parles dans ta parole. Je veux pouvoir les méditer. Je veux pouvoir voir où tu me diriges. Je sais que tu as donné un don spécifique à chaque personne. Montre-le-moi et que je puisse l'utiliser pour les biens de la communauté, pour l'édification de l'Église, pour pouvoir continuer de combattre l'ennemi, de pouvoir gagner des batailles. » Alors, est-ce que vous êtes prêts à vivre aujourd'hui, demain, durant tout cet été et même plus loin, des nouvelles victoires sur l'ennemi, de combattre Satan avec les bonnes armes que le Saint-Esprit nous donne, afin de gagner des batailles pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors simplement, coupons notre tête maintenant. Et réfléchissons que ces clés nous sont offertes aujourd'hui, que nous puissions les utiliser. Et comme on l'a dit, nous voulons les utiliser pour nous, pour nos frères et sœurs. Nous voulons nous rappeler que justement à travers la Sainte Cène que nous allons prendre, le sang de Jésus-Christ a vaincu l'ennemi une fois pour toutes. Même s'il continue à s'acharner sur nous, il est ligoté. Il sait qu'il reste un peu de temps. Et nous voyons comment autour de nous, comment l'ennemi s'acharne. On voit tellement de gens, de chrétiens qui sont découragés, démotivés. On voit comment que des gens même viennent moins régulièrement à l'Église dans ces derniers temps. Moi, je crois encore une fois que l'Église est le corps de Christ, que l'Église est là pour nous encourager mutuellement, et que loin de l'Église, loin des frères et sœurs, c'est difficile de combattre l'ennemi. Donc, on va se retrouver seul. Alors que nous puissions prendre cette Sainte Cène dans ce sens aujourd'hui, de remerciement, d'action de grâce, mais aussi que nous puissions voir que Dieu veut quelque chose de nouveau aussi en nous. Que Dieu veut aussi nous utiliser avec nos imperfections, avec notre foi qui est peut-être un peu limitée, avec notre manque de confiance, mais veut nous utiliser pour pouvoir accomplir de grandes choses pour son royaume, pour combattre, pour délivrer, pour libérer des personnes, des griffes de l'ennemi. Alors simplement, prenons le temps de silence devant le Seigneur. Et réfléchissons au Seigneur. Est-ce que tu me donnes une de ces armes que je puisse utiliser? Est-ce que je puisse prendre cette autorité que tu me donnes? Est-ce que je peux prendre cette parole de Dieu pour pouvoir la mettre devant l'ennemi qui veut s'acharner sur moi? Est-ce que je peux prendre le nom puissant de Jésus-Christ? Est-ce que je peux prendre le sang de Jésus-Christ qui a été coulé sur la croix et qui nous délivre pour pouvoir aussi prononcer devant l'ennemi afin de gagner des batailles? Est-ce que je peux utiliser les dons de l'Esprit que tu me donnes? Est-ce que je peux utiliser la prière pour pouvoir encore accomplir de grandes choses à travers toi? Seigneur, on te remercie pour ce pain qui représente ce corps qui a été sacrifié pour nous. Tu as été jusqu'au bout, toi qui étais le Fils de Dieu, tu as accepté d'être trahi, tu as accepté d'être frappé, torturé, mis à mort comme un brigand pour nous donner la vie. On te remercie, Seigneur, pour cette coupe qui représente ton sang. Le sang qui purifie, le sang qui agit encore. Ce sang qui a été versé il y a plus de 2000 ans, mais qui est encore vrai aujourd'hui pour nous donner la vie. Nous te remercions pour ce rappel, pour cette grâce que tu as fait gratuitement pour chacun de nous. Permets qu'on puisse encore continuer, Seigneur, d'être reconnaissant pour tout ce que tu fais pour nous. Mais Seigneur, nous voulons aussi maintenant, nous voulons aussi à travers cette sainte scène aussi, voir que tu es encore capable de faire de grandes choses. Tu es capable d'accomplir ta grâce. Tu es capable de pardonner. Tu es capable de guérir. Tu es capable de restaurer. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, maintenant prendre un temps. Prendre un temps, Seigneur, où, Seigneur, nous voulons mettre en pratique ta parole. Nous voulons mettre en pratique ces clés de la victoire sur le combat que nous menons, sur le combat que d'autres personnes mènent. Tu connais tout ce que nous vivons actuellement. Tu connais peut-être toutes les difficultés que nos proches vivent. Tu connais aussi peut-être toutes les difficultés, les défis que beaucoup de chrétiens vivent en ce moment actuellement. Seigneur, on a besoin de prier. On a besoin, Seigneur, d'intercéder. On a besoin, Seigneur, d'utiliser les dons de l'Esprit que tu nous donnes pour de pouvoir justement intercéder, prier, de pouvoir avoir des victoires à travers toi. Tu nous donnes cette autorité, Seigneur. Tu nous donnes ta parole, tu nous donnes ton nom puissant, tu nous donnes ton sang. Et Seigneur, nous voulons prendre ces outils, ces ressources que tu nous donnes, non pas pour essayer de faire quelque chose de meilleur pour nous, mais de pouvoir les utiliser pour ta seule gloire, pour pouvoir continuer à délivrer, à libérer les captifs. Seigneur, peut-être c'est vrai que peut-être nous n'avons pas l'habitude de le faire, mais donne-nous, Seigneur, de sortir peut-être de nos horizons ce matin. Et de pouvoir prier les uns pour les autres avec foi, avec audace. De donner des paroles peut-être de sagesse, de paroles de discernement, des paroles d'encouragement. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir prier pour guérir des maladies, de pouvoir guérir des cœurs qui sont blessés, qui sont meurtris par toutes sortes d'épreuves et de difficultés. Seigneur, tu veux nous utiliser chacun de nous. Tu nous as donné à chacun des dons, chacun. Et nous voulons, Seigneur, simplement ce matin, les mettre en pratique avec foi. Avec confiance que tu vas agir. Alors Seigneur, simplement que nous puissions rester dans cet esprit, sous ton regard, et que tu puisses continuer de nous parler. Et que Seigneur, tu puisses nous inspirer ce que nous devons faire maintenant. Oui, viens, agis par ton nom puissant, Seigneur Jésus.